France Inter, Nicolas Demorand, le 7-9.
Et l'invité du grand entretien de la matinale est aujourd'hui philosophe, professeur à l'université de Lausanne. Il fut également tête de liste Urgence écologie aux élections européennes, expérience singulière sur laquelle il revient dans un article du quotidien en ligne AOC intitulé « Philosophie et politique, aller-retour ». Vos questions, amis auditeurs, au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application de France Inter. Bonjour Dominique Bourg.
Bonjour Nicolas.
Et merci d'être au micro d'Inter ce matin. Votre expérience en politique, on va en parler dans quelques instants, mais j'aimerais qu'on s'arrête sur l'actualité qui a dominé la semaine et qui est un événement au sens fort. C'est la signature de l'accord de libre-échange UE-Mercosur. Elle a été accueillie par un front critique puissant, parfois inattendu. Thomas Legrand l'analysait tout à l'heure, avec par exemple la jonction des écologistes et de la FNSEA. La majorité elle-même est secouée. Quant à l'exécutif, il est désormais d'une grande prudence en disant que rien n'est encore fait ni ratifié. De quoi l'ensemble de cet épisode, Dominique Bourg, vous semble-t-il symptomatique? Restera-t-il comme un moment fondateur, peut-être, de la nouvelle donne écologiste?
Si ça pouvait être le cas, on ne pourrait que s'en réjouir. Mais d'une certaine manière, les choses sont très simples. À quoi ça sert un accord commercial multilatéral? Ça sert à booster le commerce. Booster le commerce, ça veut dire produire plus, échanger plus pour consommer plus. Qu'est-ce qui aujourd'hui détruit le climat et la biodiversité? C'est le fait qu'on produise, qu'on échange et qu'on consomme plus. C'est très simple. Si effectivement on veut dans les 10 ans qui viennent, notamment diviser par 2 à l'échelle mondiale, nos émissions de gaz à effet de serre, je le répète, il faut produire, échanger et consommer moins. Donc tout ce qui va à l'encontre est contradictoire avec cet objectif. C'est
alors,
tout simple.
Allons-y, Nicolas Hulot, et on entend que vous êtes sur proche de cette ligne, est intervenu et sur ce traité, il a parlé cash, comme on dit en français. Le libre-échange est responsable de la catastrophe écologique. En tout cas, il l'entretient aujourd'hui. Mais dites-moi ce qu'on fait, Dominique Bourg. On arrête de commercer? Je vais prendre un exemple. Le vin français, qui s'exporte merveilleusement à travers le monde parce qu'il est bon. On dit quoi aux vignerons? Arrêtez de produire autant? Qu'est-ce qu'on fait?
Alors déjà, la première chose, si vous voulez, c'est que le commerce est aussi vieux que le monde.
Oui.
Au moment de la civilisation de l'âge du bronze, les petits royaumes autour de la Méditerranée échangeaient du vin, de la farine et de l'huile d'olive. Qu'on soit bien d'accord.
Voilà.
Donc dire qu'on sort du commerce et que tout va avoir vocation à être produit de manière locale, ça n'aurait pas de sens non plus.
Bon.
Mais en tout cas, la difficulté...
C'est pas ma question.
Voilà, non, c'est la question, c'est pas la fin du commerce. Mais le fait que le commerce soit devenu une fin en soi, qu'il ne soit plus un moyen pour satisfaire certains besoins et que cette fin passe, mais avant tout le reste. Ça, effectivement, ça nous donne le monde d'après-guerre. Ça nous donne un monde dans lequel, si vous voulez, les flux de matière, les flux d'énergie ont été boostés. Il y a quelques jours, une vigneronne constatait l'état de ses vignes, puisque vous me parlez de vin.
Oui.
L'état de ses vignes, je crois que c'était dans le Gard, hein, évidemment avec une température de plus de 45. Je vous rappelle qu'entre 40 et 45...
Les vignes ont séché.
Oui, les vignes ont brûlé.
Brûlé.
Mais je vous rappelle qu'entre 40 et 45 degrés, la photosynthèse des plantes s'arrête. Là, on était au-delà de 45. Et vu le passé, les sécheresses, etc., les stress hydriques antérieurs, la vigne est morte.
On fait quoi, Dominique Bourg, pour le vin?
On
diminue la production de vin.
Si vous voulez,
c'est un exemple, hein.
Oui.
On diminue la production de vin, on la réserve à la France, aux pays limitrophes. Quelle forme doit prendre le commerce?
Si vous voulez, on produit du vin dans le monde entier. Alors, il y a des vins très spécifiques. Il y a des vins dont vous ne trouverez aucun équivalent. Et en fait, ceux-ci, d'ailleurs, sont une assez petite quantité. Ils sont produits à la très petite échelle. Alors que ces vins-là puissent donner lieu à des échanges, on peut le comprendre. Mais ce qui peut être fait, produit de façon relativement standard dans un pays, n'a absolument pas vocation à devenir un objet d'échange. Là, vous avez par exemple des tomates qu'on va faire pousser à un endroit. Les pesticides sont produits à un autre. autre, elles sont conditionnées dans un autre, etc. Et si vous voulez, elles font le tour de la Terre avant d'arriver dans nos assiettes. Mmh. C'est un peu impensif, mais c'est pas faux. Et c'est cet ordre-là qu'il faut défaire, c'est tout simple.
Et donc, vous dites aujourd'hui que si on se relève les manches et qu'on va tirer les conséquences pratiques d'une critique du libre-échange, il faut produire moins, exporter moins. Mais comment des secteurs économiques peuvent recevoir ça? Je reprends la vigne parce que la vigne, c'est l'un des plus grands postes d'exportation de l'économie française.
Bien sûr. Écoutez,
comment voulez-vous que ce soit reçu?
À partir du moment où on a construit toute une société autour de l'optimisation des échanges. Effectivement, revenir dessus n'est pas une chose. Vous me parlez de la vigne, on pourrait parler de la production d'avions avec Airbus. Mmh. On pourrait prendre plein de secteurs économiques. Là, vous voyez bien que les choses deviennent vitales. Les gens ont ressenti fin juin ce qu'ils n'ont jamais ressenti. Je vous rappelle que pour la première fois en France, des températures supérieures à 45 degrés ont été relevées. C'est un record absolu. Et ce qui s'est passé en deux ans, en fait, si vous voulez, jusqu'à maintenant, quand on parlait de changement climatique, on se projetait à la fin du siècle, on parlait de moyenne de température à la fin du siècle. Vous le savez très bien, l'émotion produite auprès des gens était nulle. Ce qui a tout changé avec le rapport SR15 sur les 1,5, 2 degrés, c'est qu'on a expliqué aux gens, c'est pas dans à la fin du siècle. Les 1,5 degrés, c'est probablement autour de 2030, les 2 degrés, probablement autour de 2050. Et effectivement, par exemple, l'écart entre l'un et l'autre est tout sauf négligeable. Maintenant, on le sait, ça. Et puisque c'est notre système qui l'a produit, c'est bien notre système qu'il faut détricoter. Donc le problème, vous ne le ferez pas si vous avez comme objectif absolu de maintenir le système en l'état.
J'ai besoin de vos ressources lexicales, Dominique Bourg. Vous êtes philosophe, je le rappelle. Il faudra donc peut-être trouver un autre mot. Mais le résultat de tout ce que vous venez de décrire n'est-il pas le même que le protectionnisme, à savoir la complication des échanges? Il faut compliquer les échanges commerciaux aujourd'hui.
D'une certaine manière, il faut, au contraire, je dirais presque les simplifier. C'est-à-dire, on est encore une fois, je le répète, dans une organisation de la société où tout est, on vise en tout point de maximiser les échanges. C'est ça qui entre en contradiction avec la poursuite de nos conditions de vie sur Terre. Si on prend ça au sérieux, c'est qu'on doit, sur ce plan-là, détricoter, régresser. Ça va pas se faire sans casse. Alors, comment on organise cette casse? Quelles sont les compensations qu'on trouve à cette casse, etc. Alors, là, j'ajoute autre chose qui est extrêmement important, et le Haut Conseil sur le climat vient de le rappeler. Vous n'avez pas d'écologie de la société, d'écologisation de la société, sans un resserrement relativement drastique de l'échelle des revenus. C'est-à-dire qu'on est face...
De l'échelle des revenus.
De l'échelle des revenus, j'entends bien. On est, si vous voulez, face à un danger mortel. Face à ce danger mortel, vous n'allez pas pouvoir réagir avec des demi-mesures. Ce sont des mesures structurelles qu'on doit prendre sur 10 ans. Donc, elles ont un impact très lourd. À partir du moment où vous avez des écarts de revenus qui sont très, très importants, tout ce qui est incitation, taxe, n'a aucun sens. Puisqu'en fait, vous allez faire peser l'effort sur les plus pauvres. On l'a vu avec les gilets jaunes. C'est la leçon des gilets jaunes. Au moins, c'est là qu'on la retienne. Il n'y a pas d'écologie qui n'est pas en même temps sociale. Donc, c'est notre modèle dans sa totalité qu'il faut revoir.
On a vu en 2017, pour la présidentielle, Dominique Bourg, Yannick Jadot s'effacer derrière Benoît Hamon, qui incarnait l'aile gauche du PS. En 2019, deux ans plus tard, Yannick Jadot, après sa troisième place aux européennes, dit qu'il n'y a plus de gauche et de droite, mais juste l'écologie qui se suffit à elle-même comme idéologie politique, disons-le comme ça. Est-ce un positionnement tactique, qui peut d'ailleurs avoir sa dignité, ou une mutation profonde qui décolle, selon vous, les verts, des rouges et des roses qui étaient leurs compagnons de route habituels?
Essayons d'être précis. Oui. Dans le, si vous voulez, la partition ancienne et pour moi aussi dépassée droite-gauche, mais entendons-nous bien, elle l'est pas totalement. Eh bien, il y avait d'un côté le fait que ce qui séparait les forces politiques, c'était la manière de concevoir comment on pouvait optimiser, si ce n'est maximiser la production de richesses. C'est plus notre problème. Mmh. On vient de le voir, on doit redescendre la production de richesse. L'autre volet, c'était une fois qu'on a produit la richesse, quelle est la manière la plus juste de la répartir? Alors, le premier côté est obsolète. Notre problème, c'est plus de maximiser la production de richesses. C'est ça qui détruit nos conditions de vie sur Terre. En revanche, la question de la redistribution la plus juste de la richesse, elle se pose même de façon différente. C'est-à-dire que c'est en quoi c'est très différent du jeu gauche-droite d'avant. C'est-à-dire, si je veux vraiment écologiser la société, je n'ai pas le choix. Je dois réduire les écarts de richesse au sein d'une société. Donc vous voyez bien que le problème aujourd'hui ne se pose plus du tout de la manière dont il se posait quand il y avait une gauche et quand il y avait une droite. Et donc effectivement, aujourd'hui, l'écologie, alors dans tous les pays anciennement industriels, c'est absolument le cas, l'écologie est devenue le référentiel majeur. Alors soit d'une façon positive, comme vous l'avez eu pour les élections européennes en France, ou plus écologique que moi, ça n'existait pas. Si vous voulez, sur tout l'arc politique français,
c'était
tous
partout,
les gens
tout le monde
étaient
écologistes.
C'est clair. Et vous avez une autre manière de décliner, mais exactement la même chose, vous l'avez d'une façon, si vous voulez, négative par rejet. Si vous regardez le Brésil de Bolsonaro ou les États-Unis de Trump, en fait, là aussi, c'est l'écologie qui guide tout. Ce qui guide la politique de Trump, c'est un refus viscéral de l'écologisation de la société.
Alors,
et Bolsonaro, pareil.
Entrons, Dominique Bourg, dans les conséquences de ce que vous venez de décrire. Dans le papier d'AOC que je citais tout à l'heure, vous avez cette phrase que je trouve incroyable sur les États-Unis. Je vous cite « Un scientifique du climat peut-il faire autre chose que voter démocrate ?» Donc, ne pas voter Trump. Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire qu'on est rentré dans une période assez spéciale. Vous le voyez bien, ça se déglingue un peu autour de nous.
Non mais ça, d'accord.
Vous avez des gens qui sont des méchants de série B qui accèdent au pouvoir, Salvini, etc. Le monde a changé depuis, disons, le Brexit à une rapidité totalement incroyable. Et effectivement, dans un monde normal, si vous voulez, la production de connaissances était quelque chose qui faisait l'unanimité. Et donc, les pouvoirs publics avaient pour objectif d'organiser les meilleures conditions possibles pour qu'on puisse produire sur un territoire de la connaissance. Avec Trump et avec les républicains d'aujourd'hui, on doit cesser de produire de la connaissance en matière de science du climat. Bolsonaro, c'est la même chose, c'est un objectif politique avoué,
alors,
affirmé.
Si Donald Trump est réélu, Dominique Bourg, est-ce que ça veut dire que son administration est illégitime au regard de l'urgence climatique et du feu au lac?
Eh bien, on
non, parce que c'est ce qu'on se dit en lisant cet article. On se dit, on n'est plus en démocratie, on est en guerre.
Ah ben écoutez, ça, alors là, je vais sortir un livre à la rentrée où franchement, j'ai vraiment des doutes sur le fait qu'on soit encore en démocratie.
Et pourquoi ?
Alors, pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est une vieille question philosophique, si vous voulez, c'est la démocratie, c'est le principe de l'égalité absolue, c'est-à-dire un homme égale une voix. Ça a toujours fait un ménage assez compliqué avec les inégalités sociales et économiques. C'est une des questions les plus classiques de la philosophie politique. Or aujourd'hui, alors un peu moins en Europe, alors aux États-Unis c'est archi clair, on assiste à une explosion des inégalités. Je vous rappelle que les États-Unis sont depuis 2008-2009 revenus à un niveau d'inégalité qui était le leur en 1920. En d'autres termes, toute la période avec des taux de croissance supérieurs à 2%, et tous les fruits de cette période ont été détruits. Et vous savez très bien que même la Cour suprême a interdit toute limitation au financement de la vie politique. On pourra en parler tout à l'heure, mais le financement de la vie politique, j'ai vu de près ce que ça signifie.
Bon, mais répondez à ma question, Dominique Bourg, si Donald Trump est réélu, est-ce que ça veut dire que son administration est illégitime ?
Alors ça veut déjà dire que les contradictions entre son administration et lui vont encore se renforcer. C'est de notoriété publique, il y a un énorme problème aujourd'hui dans l'administration américaine. Parce qu'effectivement, le type de politique que mène Trump est quand même contradictoire avec ce qui avait été, si vous voulez, le côté commun aux républicains et aux démocrates d'autrefois de la politique américaine. On sort des droits humains, on sort justement d'une forme de respect des sciences, on y substitue une espèce de fanatisme technologique, etc.
Oui, mais l'élection démocratiquement permet de porter au pouvoir quelqu'un ce type. Donc, ce que je veux dire, c'est...
Hitler a été élu démocratiquement, en fait, bien attention. Mais la démocratie, c'est pas simplement le fait qu'à un moment donné, une population opte pour quelqu'un. On sort de la démocratie quand on sort des droits humains et quand on sort d'un certain nombre de valeurs et quand on sort de la possibilité d'un certain type de recours en matière politique. Si vous voulez,
je vais le dire autrement, oui. Dominique Bourg. Vous l'avez dit, l'urgence écologique nous oblige à repenser le commerce, la manière dont on échange à travers le monde. L'urgence climatique nous oblige-t-elle aussi à revoir ce qu'on appelle démocratie ?
Alors, entendons-nous bien.
Si un scientifique ne peut pas voter pour Trump rationnellement.
Non, je dis un scientifique du climat.
Oui, un scientifique du climat.
La contradiction est très simple. C'est-à-dire qu'il va voter pour quelqu'un dont l'objectif avoué est de détruire la production de connaissances dans un domaine. Or, il se trouve que s'il est scientifique du climat, son boulot est de produire. Ce que je veux dire par là, si vous voulez, c'est qu'on est une période très particulière. Une période unique dans l'histoire humaine. Se joue la possibilité de continuer à vivre sur Terre. Si vous avez une organisation de la société qui a pour objectif de dénier ce problème, d'ailleurs qu'on ne dise pas que, si vous voulez, les républicains sont climato-sceptiques. Il n'y a plus de climato-sceptiques. Ce mot doit être banni. Quand vous avez le couteau sous la gorge, vous n'êtes pas couteau-sceptique. Le scepticisme, ça veut dire qu'on suspend son jugement. Pour suspendre son jugement, franchement, il ne faut pas avoir d'enjeux vitaux. Là, on est sur des enjeux vitaux. Il faut maintenant que les mots aient un sens. Climato-sceptique, ça ne veut rien dire. Vous pouvez être négationniste, vous pouvez avoir d'autres attitudes, mais vous voyez bien que le problème de ces gens-là, c'est pas de ne pas croire au climat. C'est de vouloir en tout point qu'on ne fasse rien pour. C'est totalement différent. C'est-à-dire, c'est des gens qui organisent l'inaction sur ce sujet. C'est exactement ce qui s'est passé avec les menaces de Trump au G20. C'est de sortir pour lui et d'entraîner derrière lui d'autres pays, c'est-à-dire de faire que la communauté internationale ne puisse pas s'organiser.
Alors, je vais le redire autrement parce que je pense que là on est sur un point absolument crucial. Une démocratie sont des électeurs qui élisent leurs gouvernants. Si, pour reprendre votre analyse, Dominique Bourg, les électeurs votent mal entre guillemets, qu'est-ce qu'on fait ?
Non, mais attendez, je suis désolé, je suis pas d'accord avec la définition. Une démocratie, c'est pas simplement, si vous voulez, un territoire dans lequel on va choisir par l'élection un certain nombre de représentants. C'est un territoire sur lequel on reconnaît un certain nombre de valeurs. Ce qui fait la démocratie, c'est que le pouvoir élu ne peut pas aller à l'encontre des droits humains. C'est un territoire sur lequel ce que doit faire le pouvoir élu, c'est veiller au bien-être de l'ensemble de la population. C'est ça une démocratie, c'est pas simplement l'élection. Ça fait 30 ou 40 ans que toutes sortes, si vous voulez, de spécialistes, que ce soit des philosophes, des historiens, des juristes, disent aux gens non, la démocratie, c'est pas simplement le fait de pouvoir élire quelqu'un. Hitler a été élu. Simplement, il a ensuite suspendu la constitution allemande pour 4 ans et vous connaissez la suite. Donc la démocratie, ça n'est pas simplement l'élection. C'est le cas de l'élection dans un cadre plus général, où on doit respecter un certain nombre de principes, le principe de la souveraineté populaire, le principe des droits humains et le principe de l'état de droit. C'est-à-dire que ceux qui ont le pouvoir ne peuvent l'exercer que dans les limites imparties par la Constitution. C'est très différent. C'est ça la démocratie. Or, on en sort aux États-Unis, on en sort au Brésil et on en sort, à mon avis, à beaucoup d'endroits et un peu en catimini.
Un courrier électronique. Première question d'auditeur, Dominique Bourg. Yannick Jadot, c'est Pierre qui vous pose la question. On n'a pas épargné le ministre Hulot avant sa démission. Est-ce que la candidature de Dominique Bourg, la vôtre, très proche de Nicolas Hulot, est-ce que vous regrettez donc votre candidature, Dominique Bourg, et d'avoir fait baisser Yannick Jadot, dit Pierre, de 2 points?
Non, pas du tout. Alors, en fait, l'objectif, si vous voulez, d'urgence écologie, c'était de faire entendre le message de l'urgence. Alors, sur le plan, si vous voulez, de la parole, le moins qu'on peut dire, c'est qu'on a réussi. Tout le monde parle d'urgence. Le Premier ministre lui-même, dans son discours du 12 juin, a appelé une accélération écologique. On l'a pas bien vu, mais en tout cas, il l'a appelé. Donc, en fait, c'est vraiment devenu une sorte de référentiel. Et pour nous, ce qui était très important, c'est de dire qu'à des mouvements comme Extinction, Rébellion, eh bien, qu'effectivement, il y a un débouché politique pour la part de la population qui est la plus inquiète. Et je vous rappelle que vous avez le manifeste des étudiants qui avait été signé il y a un an. Vous avez 30 000 étudiants, souvent issus des meilleures formations, qui affirment aujourd'hui « je ne travaillerai plus dans une entreprise dont l'objectif pas forcément avoué, mais en tout cas effectif, est de détruire nos conditions de vie sur Terre. On voulait donner une voix politique à cette partie de la population. Vous l'avez vu, cette partie de la population exploser après l'été 2018, à l'automne 2018. Autant vous dire qu'avec l'été qu'on commence à connaître, ça ne va pas s'arrêter. À ça, vous ajoutez le fait que le climat, c'est sympa, mais c'est jamais que l'ensemble des conditions qui permettent l'épanouissement de la vie sur Terre, vous l'avez appris avec l'IPBES, eh bien la vie sur Terre, elle dégringole.
Une question précise, parce que elle est dans les courriers électroniques que l'on reçoit. Est-ce que la famille écolo-française va se réunir, se retrouver sous une même casaque? Pour le dire autrement, est-ce que les couleurs que vous portiez vont fusionner avec celles de Yannick Jadot?
Absolument.
Et dans quoi?
Absolument. L'idée que tout le monde est à peu près d'accord d'ailleurs là-dessus, ça me fait vraiment plaisir. Une des idées que nous avions, outre celle que je viens d'indiquer, c'était de faire comprendre qu'il n'y avait pas une écologie, qu'il y avait des sensibilités différentes. On va du vert pastel à un vert beaucoup plus foncé, pour dire les choses d'une certaine manière. Et que personne n'avait en quelque sorte le monopole. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est le rassemblement du pastel au foncé. Pas simple, mais c'est une nécessité aujourd'hui. C'est une nécessité
absolue. Ce sera un parti, un mouvement, ça s'appellera comment,
vous savez
déjà.
Je pense qu'il va y avoir plusieurs partis, précisément, mais qu'il devrait exister une fédération des écologistes. Et ce qui est très important à mes yeux, c'est que cette fédération, elle ne soit pas faite que d'hommes et de femmes politiques. Pour ma part, je ne suis pas un homme politique, je suis désolé. Je me suis engagé à un moment donné, et j'ai tenu un discours qui était à peu près le même que celui que j'aurais tenu autrement, si ce n'est que les ondes se sont fermées pour des raisons de règles du CEA, etc. On va pas revenir là-dessus. Mais bon, mais voilà, c'est fini. Moi, je redeviens un citoyen. Mais en revanche, ce qui me semble extrêmement important, c'est que le changement qu'on a opéré en un temps record est extrêmement profond. Et pour, du moins, si on y croit et si on est convaincu de ça, on peut pas rester à l'écart. Tous les citoyens doivent se mobiliser pour l'écologisation de la société. Donc il faut que d'un côté il y ait des partis, mais de l'autre qu'il y ait une fédération des citoyens, non encartée, mais avec un lien avec ces partis, de telle sorte que dans cette période très particulière qui est la nôtre, que l'ensemble de la société se mette en mouvement.
Sauver la planète.
Sauver la vie.
Sauver la vie, pardon.
Et
trouver les moyens de le faire. C'est quoi une réforme des retraites écolo? C'est quoi une assurance chômage écolo? C'est quoi l'organisation d'un système de santé écolo?
Une assurance chômage écolo, c'est effectivement très important aujourd'hui, puisque si vous avez une mutation rapide de la société, il y a un certain nombre de postes de travail qui vont disparaître. S'il n'y a pas une solidarité nationale par rapport à cette disparition, jamais vous ne pourrez y arriver. Dans le programme d'urgence écologie, on avait proposé une sécurité sociale écologique, c'est-à-dire un filet pour tous. Et une assurance chômage écologique, ça renvoie à ce que j'ai dit tout à l'heure. On est dans une passe très difficile, on doit changer très rapidement. Vous ne le faites pas, ni sans resserrement des revenus, ni sans solidarité. Donc une assurance maladie, une assurance chômage écologique, eh bien ça veut dire que vous organisez cette solidarité. Sinon, l'écologisation est tout simplement impossible.
Dominique Bourg, merci. Philosophie et politique, aller-retour, c'est le titre de cet article que vous avez publié sur le site du quotidien en ligne AOC. Qu'est-ce que vous allez faire dans cette galère politique? Dites-moi en un mot.
Dans cette galère politique, laquelle?
Oui, bah, les européennes, alors que vos livres et votre voix normalement suffisent.
Ah non, il me semblait vraiment important de porter cette voix, et pour la porter, il fallait précisément quelqu'un dont l'engagement, depuis quelques décennies, était très clair dans le domaine. Ça a été fait, c'est fini.
Voilà, et maintenant, retour au livre. Merci encore d'avoir été au micro de France Inter ce matin.